Deutsche Welle, Économie et développement.
Il y a 10 mois, le nouveau président angolais, João Lourenço, prenait ses fonctions. Depuis, au nom de la lutte contre la corruption, il a congédié de nombreux barons de l'ancien régime. Mais la crise économique reste forte pour les habitants. Quel premier bilan tirer de son action? Vous en saurez plus en seconde partie de ce numéro. 10 années qui ont changé la vie quotidienne des Kenyans. Quasi impossible pour eux de se passer de M-Pesa, le service de Safaricom, le géant des télécoms dans ce pays. M pour mobile, Pesa pour argent, en Swahili. Un système de transfert par téléphone via SMS qui pèse désormais près de la moitié du PIB du pays. Écoutez le reportage à Nairobi de notre correspondante Charlotte Simonard.
You want to deposit how much?
I want to deposit 6,000.
6,000. Yeah. You have your phone?
Yes.
Ce matin-là, yes. Alex, jeune travailleur à Nairobi, dépose l'équivalent de la moitié de son salaire sur son compte M-Pesa.
Right now, I'm depositing my money to M-Pesa.
Je mets de l'argent sur mon compte M-Pesa pour acheter du crédit mobile et envoyer de l'argent à mes parents.
Alex fait partie des 28 millions d'utilisateurs du service, soit 100% de la population adulte au Kenya.
Tu peux acheter n'importe quoi quand tu veux. Tu n'as plus besoin d'aller dans un magasin grâce à M-Pesa.
M-Pesa est rentré dans les mœurs des Kenyans depuis plus de 10 ans. Chaque jour, 18 millions de transactions sont effectuées. Sur l'année, cela représente la moitié du PIB kényan, plus de 30 milliards de dollars. Thibaut Rérol est français, il est le directeur technique de Safaricom.
Au départ, c'était une sorte de pilote pour pouvoir débourser des sortes de micro-prêts qui étaient déboursés par une institution de microfinance et qui avait besoin en fait d'un système pour pouvoir envoyer cet argent à leurs bénéficiaires. Et très vite, les Kenyans se sont tout de suite emparés de cette solution pour en faire un mode de vie. Il faut bien voir qu'à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, si moi je perçois un salaire, par exemple je suis gardien dans un immeuble ou quelque chose comme ça, il y a facilement une dizaine de personnes qui dépendent directement de ce salaire en cash. Ma femme, mes enfants, peut-être mes parents, peut-être un cousin que j'aide pour ses études, etc. Cet argent a besoin de circuler.
M-Pesa continue de grandir et d'atteindre des records. Entre octobre et décembre 2017, les transactions mobiles ont franchi la barre des 1000 milliards de shillings, l'équivalent de près de 10 milliards d'euros. Thibaut Rérol.
Chaque année, on voit en gros 1 million de jeunes Kenyans qui arrivent à l'âge adulte, qui arrivent sur le marché du travail, qui arrivent en tant que clients de services comme par exemple M-Pesa. Par ailleurs, on a une croissance très forte des différents cas d'utilisation. Aujourd'hui, on peut aussi payer chez des marchands, on peut bien sûr payer ses factures, on peut payer l'école de ses enfants. Il y a 100 000 marchands actifs chez lesquels on peut aller et payer par M-Pesa. Donc ça génère des nouveaux cas d'utilisation.
Derrière le comptoir, Sizili respecte scrupuleusement la procédure. Elle est agent M-Pesa depuis 10 ans.
Je demande l'identité du client pour vérifier que c'est bien le propriétaire du compte, puis j'entre le numéro de la carte d'identité dans le téléphone. Après qu'il m'a donné l'argent, je transfère l'équivalent sur son téléphone et il reçoit une confirmation par SMS.
Safaricom lui a donné un téléphone basique pour ses opérations. Pas de smartphone, juste de quoi utiliser M-Pesa et assurer les transactions des clients. Le téléphone de chaque agent permet à Safaricom de calculer les volumes de transactions et en fonction de verser les salaires des agents à la fin du mois. M-Pesa a considérablement amélioré la vie de Sizili.
Ça a changé ma vie parce qu'à chaque transaction M-Pesa, je touche une commission. Par exemple, sur 1000 shillings de transactions, je reçois 10 shillings. Je gagne environ 20 000 shillings par mois. C'est un bon deal.
Devant son kiosque, une petite terrasse modeste, quelques tables et chaises en plastique où les clients viennent prendre le thé. Edwin, un jeune homme trentenaire, nous surprend.
Moi, je n'utilise pas M-Pesa parce que c'est trop cher. Quand je retire par exemple 1000 shillings en cash, cela me coûte 27 shillings. C'est beaucoup.
M-Pesa prend en effet une commission sur chaque transfert et retrait d'argent en cash. C'est ainsi que Safaricom assure la rentabilité du service. Mais pour Wilfried, la sécurité assurée par M-Pesa n'a pas de prix.
On n'a plus besoin d'avoir du liquide sur nous. C'est dangereux d'avoir du cash. Tu peux te le faire voler. La semaine dernière, cela m'est arrivé dans la rue. Ils m'ont volé 3000 shillings. Si je les avais mis sur mon compte M-Pesa, cela ne serait pas arrivé.
M-Pesa existe aussi au Mozambique, en Tanzanie, au Ghana, en République démocratique du Congo et aussi en Inde. Mais nulle part ailleurs qu'au Kenya, ce service n'a pris autant d'ampleur. Véritable caractéristique de l'économie du pays, Thibaut Rérol nous l'explique.
Les Kenyans se sont vraiment emparés de ce service. L'investissement dans ce réseau de distribution a été très très important. Ce sont des kiosques où on peut aller déposer de l'argent sur son compte M-Pesa ou retirer de l'argent en cash. Il y en a aujourd'hui 156 000 au Kenya, ce qui veut dire qu'à distance, à pied, n'importe quel Kenyan peut trouver aujourd'hui un agent M-Pesa où il peut effectivement effectuer ses transactions. Le troisième facteur clé de succès, je pense aussi, ça a été la bonne volonté et le bon accompagnement du projet par le régulateur. Okay, donc la Banque Centrale du Kenya, les ministères compétents, le régulateur des télécoms, etc. ont tous vu l'importance que ça pouvait avoir pour l'économie kenyane.
Depuis quelques années, Safaricom veut renforcer les liens entre M-Pesa et le secteur bancaire. Dernièrement, un accord a été signé avec PayPal, le géant du paiement en ligne, de quoi offrir aux entreprises et particuliers kenyans un accès direct à l'économie et aux marchés mondiaux. Charlotte Simonard, à Nairobi pour la Deutsche Welle.
Depuis 2014-2015 et la chute du prix du baril de pétrole, la crise économique touche les Angolais. Le coût de la vie a flambé dans ce pays très dépendant des importations. Et si l'Angola reste l'un des principaux producteurs africains de pétrole, il éprouve des difficultés à payer désormais en temps et en heure ses fonctionnaires. Écoutez les explications de John Schubert, il est anthropologue politique et économique à Londres et il est spécialiste de l'Angola.
Maintenant, le fait que le gouvernement ait annoncé qu'il n'arrive plus à payer les fonctionnaires, c'est un peu alarmant, mais en même temps, peut-être offrira aussi une chance pour que, justement, on entame des négociations un peu plus sérieuses pour essayer de sortir de la crise, c'est-à-dire la diversification de l'économie angolaise, quelque chose dont le gouvernement parle volontiers depuis au moins une dizaine d'années, mais n'a jamais mis en œuvre. Doit être une des premières priorités du nouveau gouvernement de Jean Lorenz.
Comment cette diversification serait-elle possible? Quels sont les points sur lesquels l'économie angolaise pourrait se diversifier?
Ben justement, c'est ça la grande question. C'est-à-dire que la dépendance du pétrole est telle que ce sera très difficile d'effectuer ce changement et il ne viendra pas du jour au lendemain. C'est-à-dire... Là, en ce moment, le prix du baril a un peu repris. Et donc, en fait, si le gouvernement n'était pas obligé à utiliser une grande partie, près de 50% de ses recettes pour repayer les dettes, on pourrait utiliser cet argent et l'investir dans la diversification économique. Donc, le grand problème jusqu'à présent, c'était un manque de volonté politique, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts économiques, mais étroitement liés au pouvoir politique qui profite de la dépendance de l'Angola des importations et qui eux, évidemment, ont guère intérêt à ce que leur monopole très lucratif se termine. Et donc, il va falloir à un moment que le nouveau président, en fait, s'affirme, non seulement comme il l'a fait jusqu'à présent par rapport à la famille de l'ancien président Dos Santos, mais aussi à ses intérêts économiques plus larges, donc qui inclut aussi une grande partie de la haute hiérarchie militaire. Et ça sera peut-être un peu plus difficile pour lui, vu que lui-même est issu en fait de ces cercles. Mais évidemment, le potentiel est là en Angola, surtout l'agriculture et les marchés domestiques en fait de production sont complètement sous-développés. S'il y avait une volonté politique, une véritable volonté politique d'investir aussi dans la production et la distribution pour consommation locale, surtout des livres. Ça pourrait déjà faire changer pas mal.
Là, il y a eu un récent rapport de la Fondation Bertelsmann qui pointe aussi la dette qui représenterait 120% du PIB. Ça semble des chiffres énormes. Ça aussi, c'est un énorme problème.
C'est un énorme problème, en effet. C'est que, justement, les trois dernières années, il y a vraiment eu une tentative de combler, en fait, la chute des recettes du pétrole par des nouveaux crédits, des crédits commerciaux, comme on dit, contractés, en fait, sans l'aval du Parlement, un peu comme au Mozambique, sans l'aval du Parlement. C'était des négociations directes de l'exécutif, surtout du président même, avec la Chine, mais aussi des banques d'investissement occidentales qui se sont enrichies sur le dos de la crise économique congolaise. Et donc, c'est des taux d'intérêt et aussi des délais de remboursement qui sont très peu favorables à l'Angola. Donc, reste à voir si peut-être avec un nouveau gouvernement et peut-être aussi une certaine conjoncture internationale qui fait que justement des cas comme le Mozambique sont aussi un peu mieux scrutinisés par l'attention internationale, s'il y aurait moyen de renégocier en tout cas une partie de ces dettes pour repousser les délais, voire peut-être se faire pardonner une partie de cette dette.
Quel est le rôle du Portugal, de l'ancienne puissance colonisatrice, dans l'économie angolaise actuellement ?
Il est toujours très fort, très important, aussi évidemment par les liens culturels, mais on sent qu'avec la crise, en fait, il y a eu un refroidissement dans la nation, c'est-à-dire tant que l'argent angolais faisait aussi tourner l'économie portugaise, ça arrangeait non seulement le gouvernement du Portugal, mais l'Union européenne en général, de ne pas regarder de trop près à comment les Angolais, en fait, investissaient leur argent au Portugal et quel genre de commission, disons, furent payées par les compagnies portugaises pour s'ouvrir des marchés en Angola, notamment dans le domaine des BTP. Mais on sent que dans la mesure où, en fait, l'Angola est devenue moins intéressant et que bon nombre de compagnies portugaises ont dû fermer ou licencier leurs travailleurs étrangers en Angola et réduire leurs opérations, tout d'un coup, le gouvernement portugais retrouve une certaine indépendance et une position un peu plus critique par rapport à l'Angola, d'où surtout le pouvoir judiciaire au Portugal. Donc les investigations qui sont en cours en ce moment contre l'ancien vice-président angolais, Manuel Vicente, je dirais, sont un symptôme très visible de cette dynamique qui a un peu changé au cours des dernières années.
Ce magazine est en réécoute sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. C'était Claire-Marie Kostmann au micro. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la semaine prochaine.